RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et leur closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. On continue à débattre, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Est-ce qu'ils ont raison d'être aussi pessimistes? C'est notre question jusqu'à 14h. Ah oui, pardon, je croyais que t'allais faire le teasing de 14h, mais non, parce qu'on s'arrête à 14h, il y a du vélo après nous, il y aura Intégral Tour avec Christophe Cessieux pour suivre le Tour de France à 13h50, c'est bon à savoir, de l'info et de la bonne humeur avec Lisa-Marie Marquez. On parle de quoi, Lisa-Marie, aujourd'hui?
Bien, depuis ce matin, le doggy bag devient obligatoire dans les restaurants. Alors c'est quoi un doggy bag? Ça veut dire quoi? Et pourquoi ça devient obligatoire dans les restaurants? Toutes les réponses à 13h50.
Mais avant, on va parler des jeunes. Les moins de 30 ans n'ont pas le moral, c'est le moins qu'on puisse dire. La crise sanitaire leur a sapé la croyance en l'avenir. Selon le baromètre annuel de la DRES, c'est un observatoire de statistiques, l'inquiétude grimpe dans toutes les classes d'âge et dans tous les milieux socio-professionnels, mais elle est particulièrement forte chez les 18-29 ans. La part des jeunes déclarant des difficultés économiques a quasiment doublé, passant de 15 à 28%. En un an, cette classe d'âge est passée de la plus satisfaite à la plus préoccupée par sa situation financière. Et étonnant, cette hausse est particulièrement forte chez les étudiants, bien plus que chez les non-étudiants. Surtout, les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à avoir l'impression de vivre moins bien que leurs parents. En 2020, ils étaient 36% à l'affirmer contre 22% l'année d'avant. Alors, est-ce que les moins de 30 ans ont raison d'être aussi pessimistes? C'est notre question jusqu'à 14h. Emmanuel, tu dis non, ils ont tort.
Oui, je pense qu'ils ont tort. Je comprends qu'il y ait eu une année difficile, mais c'est pas pour ça que leur vie va être triste, gâchée, compromise. D'abord, l'histoire...
Alors, envoie du positif.
Bah oui, d'abord, l'histoire nous apprend que ça n'a jamais été le cas. Chaque génération a toujours mieux vécu que la précédente. Alors, ce qui est vrai, c'est que la différence entre cette génération et celle des parents, elle augmentera moins vite que ce qu'ont connu les parents, c'est sûr. Mais la génération de leurs parents et des baby-boomers, il n'y a pas une génération dans l'histoire qui a connu autant de progrès en un temps aussi court. Donc oui, mais ça continue à progresser. La révolution technologique qui est en cours, c'est une révolution qui est quand même riche de promesses. Demain, on va peut-être rentrer dans une phase d'hypercroissance, pleine d'innovation. La dureté du travail, l'esclavage, les contraintes du travail, tout ça est en train de se libérer. On voit qu'on peut travailler de plein de façons différentes. L'égalité homme-femme progresse. En matière d'environnement et d'écologie, le pic de bêtises est très largement dépassé, on fait beaucoup d'efforts. Il y a des innovations absolument incroyables qui se profilent sur le plan technologique. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, surtout pour des diplômés qui ont en fait entre les mains un diplôme qui sera peut-être obsolète techniquement rapidement, mais qui leur donne les capacités d'apprendre en permanence. Et ce sera ça la clé. Au moment où le savoir n'est plus un stock de connaissances qu'on accumule, mais un flux permanent qui se renouvelle, avoir fait les études et avoir appris à réfléchir, quelles que soient les études, je pense que c'est un atout considérable dans le monde de demain. Donc non, je ne vois pas de raison d'être pessimiste.
Laurent.
Moi, non seulement je les comprends, ces jeunes, mais je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter. Alors, je les comprends parce que Emmanuel l'a dit. Je rappelle juste quand même que ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas le droit de voir leurs potes, qu'ils n'ont pas le droit de sortir, qu'ils n'ont pas le droit de faire la fête. Certains étudiants n'ont même pas pu aller à la fac pendant près d'un an. Certains n'ont même pas eu l'occasion de rencontrer leurs profs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on leur fait un petit sondage. Alors, c'est comment le moral là en ce moment? Bah oui, le moral, il est dans les chaussettes et je le comprends. Mais en plus, je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter pour l'avenir. Il y a de bonnes raisons. Il y a de bonnes raisons. Tiens, on parlait il y a quelques instants dans le C'est quoi ça d'une région où il fait 50 degrés, le Canada. Normalement, il devait faire 20 degrés à cette époque de l'année. Il fait 30 degrés de plus et il y aurait pas de raison de s'inquiéter. Bah oui, l'incapacité des dirigeants de cette planète à prendre à bras le corps la question du climat, bah quand t'es un jeune de 20 ans ou de 25 ans, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Tiens, on parlait des retraites hier, toi et moi, Emmanuel. Bah les jeunes d'aujourd'hui savent même pas si leur retraite dans 40 ans seront encore payées. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? La dette, tiens, on a mis 200 milliards de dettes de plus là pour nous aider à traverser le Covid. Mais du coup, on est à combien? 2200, 2300 milliards de dettes. Qui va les payer? Bah eux, ils ils ont 20 ans, donc pour les 40 prochaines années, ils ont une dette sur les bras. Tu parlais de l'emploi. Ah oui, ça c'est vrai qu'il y a différentes façons de travailler aujourd'hui. Enfin, la façon la plus moderne, la plus nouvelle, c'est quand même l'emploi à la tâche. Hein, on leur demande tous à ces petits jeunes d'être auto-entrepreneurs. Ils deviennent auto-entrepreneurs de leur propre force de travail. Tu parles d'un progrès. On est dans une société où il y a beaucoup plus d'individualisme que de collectif. Ils n'arrêtent pas de dire, ces jeunes qui cherchent du sens à leur vie, du sens au travail. S'ils le cherchent autant, c'est sans doute qu'ils ont un peu de mal à le trouver. Donc moi, je comprends qu'ils soient inquiets. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que tout est nul. Il y a des raisons d'espérer. Déjà, ils sont jeunes. C'est déjà bien d'être jeune, hein. C'est mieux que d'être vieux, je peux vous dire.
Ça dépend pour faire quoi ?
Bah, ça dépend, mais c'est souvent pour faire beaucoup, beaucoup de choses quand t'es jeune, c'est quand même mieux. Mais oui, je comprends qu'ils soient déprimés et je crains, hélas, qu'ils aient raison de s'inquiéter, oui.
On a des jeunes déprimés et des jeunes optimistes qui nous attendent au 32-16, mais avant, Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, on vous pose la question, est-ce que les moins de 30 ans ont raison d'être pessimistes sur l'avenir ? Vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Arnaud qui nous appelle depuis Le Landreau, c'est dans la Loire-Atlantique. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Toi, tu as 30 ans, ta compagne 27 et tu es optimiste.
Tout à fait. Je vais être du côté Le Chypre aujourd'hui.
Merci Arnaud.
L'avenir est plein d'opportunités.
Ouais.
Alors toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui te dit que, voilà, que tu avances, que ça va, quoi?
Très sincèrement, j'ai un parcours de vie qui est assez atypique pour beaucoup de jeunes, qui fait que j'ai grandi pendant quasiment 20 ans à l'autre côté de la métropole française. J'ai habité pendant quasiment 20 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ah ouais.
Donc qui est un petit archipel un peu perdu, parce que en général, quand on en parle, personne ne sait d'où ça vient et voilà, donc du coup, j'y ai passé mes 20 premières années de vie.
Mais attends, Arnaud, juste pour que tu nous aies, qu'on se fasse une idée, Saint-Pierre-et-Miquelon, donc c'est au large des États-Unis.
C'est combien d'habitants? Du Canada, on est plus
du Canada, ouais. C'est combien d'habitants? Ça ressemble à quoi la vie là-bas au quotidien?
C'est 6500 habitants.
Ah ouais.
Au dernier recensement connu.
En compte, il y a autant d'habitants que dans mon petit village du Var.
Ah ouais, 6500 voilà, habitants.
Oui, c'est une toute petite ville où tout le monde connaît tout le monde, donc voilà. Et on va pas se mentir, dans un côté de développement professionnel pour les jeunes, il n'y a pas grand chose à faire là-bas, ça reste assez perdu. Et j'ai décidé à l'âge de 22 ans de partir sur la métropole et de m'installer à côté de Nantes où je suis actuellement.
Ouais.
Et je confirme en fait que mon choix était le bon. La France est plein d'opportunités pour les jeunes. Moi, j'ai parti.
Donc toi, t'as construit ta maison, tu t'es installé à un endroit que tu connaissais pas et t'as fait ton trou, quoi.
Totalement. Je suis parti de Saint-Pierre avec un simple CAP en poche, un CAP charpentier bois en poche, et puis je me suis installé en France. Et
est-ce que t'as l'impression que t'as fait plus que tes parents, parce qu'il y a un gros sujet là-dessus avec les jeunes qui ont l'impression qu'ils vivent aujourd'hui moins bien que leurs propres parents, que les perspectives sont moins belles. Est-ce que toi, t'as l'impression que t'es déjà allé au-delà?
Ah, mais totalement. Moi, à l'époque de mes parents, de ce que j'ai appris avec eux, parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts d'esprit, avec qui j'ai beaucoup discuté. Moi, mes parents, ils se sont installés du coup à Saint-Pierre-et-Miquelon quand on était enfant par défaut pour qu'on ait la meilleure éducation possible. Du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'élèves dans les classes, ils se sont saignés un petit peu pour nous, pour nous offrir ce qu'on a aujourd'hui. Ils ont été propriétaires de leur maison à 35 ans. Ils avaient des taux d'intérêt qui étaient absolument élevés sur des durées qui étaient relativement courtes. Chose qu'on n'a pas là, aujourd'hui, nous jeunes.
Alors après, il y a les taux d'intérêt qui ont baissé, mais comme l'immobilier a grimpé, c'est pas forcément facile de devenir propriétaire. C'est justement le sujet de Xavier, qui a exactement le même âge que toi, Arnaud. Arnaud, toi, je crois que tu n'as pas d'enfant. Hein. Xavier, par contre, toi, tu as deux enfants. Vous touchez à peu près la même chose. Et toi, Xavier, tu galères.
Alors moi, je galère, oui. En fait, moi, voilà, comme j'entends Arnaud, c'est vrai qu'il a réglé l'opinion, c'est bien.
Alors Xavier, on t'entend absolument pas, on va essayer, ah, on va essayer de te...
Vous m'entendez là? Allô?
Alors vas-y.
Oui, alors, j'entends Arnaud, je vois qu'il est optimiste, c'est bien. Moi, je vois la vraie chose, la vraie vie, la vraie chose. C'est que moi, je suis commercial dans la restauration. Aujourd'hui, ouais. Je gagne bien ma vie, je je suis quand même aux alentours de 3000 euros par mois, ce qui est quand même beau. Mais moi, il y a quand même un écart entre la vie d'il y a 20 ans, qui était en francs, et la vie d'aujourd'hui en euros. Aujourd'hui, pour 1 euro par mois, je galère. Et je ne fais pas d'excès. Hein. Je ne vais pas beaucoup au restaurant, je m'amuse, mais je ne suis pas tellement plus dans l'excès. Il y a 20 ans, je pense qu'avec 20 000 francs par mois, on allait souvent au restaurant, on pouvait s'amuser en boîte de nuit sans dépenser des milliers de cents. Et la vie d'avant n'a rien à voir aujourd'hui. Et c'est pour ça que nos parents, à nous, aujourd'hui, ont plus d'argent de côté, parce que la vie d'avant était moins chère.
Donc, pour moi, mais t'as l'impression que toi, c'est le passage à l'euro ou c'est
bien sûr. Ah oui. Vous prenez l'immobilier. Aujourd'hui, mes parents, ils ont acheté des maisons, ça valait 300 000 francs.
Ah oui, ça, c'est clair que sur l'immobilier, mais Emmanuel, je me tourne vers toi, mais c'est pas forcément le passage à l'euro, c'est la hausse surtout de l'immobilier, non?
Alors, moi j'ai un sentiment que je partage avec Xavier, c'est que quand j'étais jeune et que je me projetais...
Tu disais, si je gagne 10 000 francs.
Ouais, voilà, je me disais, si je gagne tant, je me voyais vivre d'une façon...
Tu mettais la barre des 10 000 francs?
Ouais, je mettais... Alors la barre des 10 000 francs, c'était important, effectivement, mais moi j'avais mes parents qui gagnaient... Ma mère gagnait plus que mon père parce qu'elle était dans le privé et que mon père était à la SNCF. Ma mère a gagné à peu près 15 000 francs, mon père 15 000 francs. Et moi, je me projetais en me disant, mais ne serait-ce que si je gagnais 20 000 francs par mois, je serais le roi du pétrole. Et il se trouve que quand j'ai commencé, quand je me suis marié et qu'on gagnait à peu près l'équivalent de 20 000 francs, et ben en fait, je pensais que je vivrais beaucoup mieux que ça. Donc Xavier, je partage ton point de vue sur quand on se projetait petit sur des revenus, on pensait vivre beaucoup mieux qu'avant. Après l'immobilier, c'est pas totalement l'euro, c'est en partie l'euro parce que l'euro c'est les taux d'intérêt très bas et les taux d'intérêt très bas, bah c'est en partie la hausse de l'immobilier. Mais c'est vrai que là je ne peux pas effectivement être en contradiction avec Laurent sur le devenir propriétaire, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui.
Xavier dit quand même un truc juste. Moi, si mes souvenirs sont bons, avant le passage à l'euro, le prix de la baguette devait être autour d'un franc 20. Aujourd'hui, c'est 1,10€, 1,20€. C'est quand même 6 fois plus. Donc, il y a quand même un petit sujet.
Ouais, mais sauf que l'euro, c'était il y a 20 ans sujet. Déjà, Laurent.
Pardon ?
C'était il y a 20 ans.
Je veux dire, aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle petite brasserie de rien du tout, toute simple. Tu t'en tires un repas, un déjeuner aux alentours de 15€. Voilà, 15 euros à l'époque.
Ça il y avait 100 francs.
100 francs. Mais avec 100 francs, mais t'allais dans un super resto.
Ouais, ouais.
Attends, évidemment.
Arnaud, t'es toujours avec nous. Tu voulais réagir à ce que disait Xavier?
Tout à fait. À chaque fois, c'est toujours le même débat. À chaque fois, vous remettez tout au franc.
Ouais, c'est pas faux.
La personne qui est avec moi en ligne a Xavier, le même âge que moi. Nous n'avons pas connu le franc. Moi,
c'est
personnellement,
vrai,
si. Ouais. J'ai connu le franc jusqu'à mes 6 ans. Je ne sais pas ce que ça représente. Allez, arrêtez de systématiquement tout mettre en franc. Je suis désolé, j'ai le même âge que le monsieur. Certes, je n'ai pas d'enfant, on gagne les mêmes revenus. Oui, je ne suis pas dans la même ville que lui, j'habite sur la région nantaise, mais pour m'accéder à la propriété, je me suis éloigné de Nantes. Je n'ai pas voulu acheter forcément dans Nantes. Moi, j'habite à 25 km de Nantes, j'ai acheté une maison qui m'a coûté 160 000 euros. J'ai fait un emprunt sur 25 ans. Eh bien oui. Maintenant, on compare toujours la vie dans les grandes métropoles, la vie en région parisienne, la vie à Bordeaux, la vie à Nantes, la vie à Montpellier. Oui, forcément, quand on est dans les centres-villes, la vie coûte très cher. Il faut des gros salaires. Pour les primo-accédants, c'est très dur. Mais on a des belles campagnes qui nous ouvrent leurs portes avec des prix qui sont relativement attractifs, des taux d'intérêt qui sont attractifs au niveau des banques. On a la chance de pouvoir emprunter sur 25 ans, chose qui n'était pas possible pour nos parents avant, qui empruntait avant sur
6%,
pour les minimums 15 ans quand on avait de la chance, avec des taux à 8.
Toi Arnaud, tu vois clairement le verre à moitié plein et tu as envie de rester optimiste, ce qui n'était pas le cas de Xavier. Mais c'est vrai que Xavier, il a deux enfants, ce qui change quand même, et que un enfant, ça coûte cher. Il y a pas de secret. Non, merci beaucoup.
Quand tu te retrouves comme Xavier dans une région sur lesquelles la pression des prix immobiliers est très forte.
Il y a de la pression en Loire-Atlantique aussi quand même,
sur la Côte d'Azur. Franchement, ouais, c'est compliqué. Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus débattre avec nous. Faites comme Xavier et Arnaud, appelez-nous au 3216 pour nous raconter votre quotidien de jeune ou de moins jeune. Notre question, est-ce que les jeunes ont raison d'être si pessimistes pour l'avenir ? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC. Midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, on est ensemble jusqu'à 14h. Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Est-ce que les jeunes ont raison d'être aussi pessimistes? Pour Neumann Le Chypre, non, ils ont tort. L'avenir est plein d'opportunités. Il fait des listes que vous pouvez consulter, des listes de choses optimistes qui peuvent faire du bien. Pour leur Neumann, oui, ils ont raison. Les vieux qui gèrent ce pays ne s'occupent pas d'eux. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de dire les vieux.
Mais pourquoi pas?
Ah bah d'accord, donc on parle comme ça. Ah,
tu connais beaucoup de ministres ou de députés, toi, quand entre 18 et 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Non, mais c'est relativement logique. Enfin, on a un président relativement jeune, quand même.
C'est vrai. Tu peux me faire la liste de toutes les mesures qui ont été prises pour aider les jeunes pendant la pandémie, là?
Un jeune, une solution.
Ah, ça, c'est d'accord, c'est pour la sortie de la pandémie.
Mais ça marche aussi, quand même.
Mais pendant la pandémie.
Ouais, enfin, bon.
Quoi?
Juste après, quand même.
Enfin, non, mais ils cherchent pas.
Hein. Un jeune, une solution, quand même, c'est quand même le plan du gouvernement. On peut le critiquer, mais tu peux pas dire qu'il
pour
y a
la
pas
de sortie
fait.
De la crise.
Oui.
Mais pendant la crise, pendant 18 mois, pas grand chose.
Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes déjà 79% à répondre comme Laurent Neumann. Oui, les moins de 30 ans ont raison d'être pessimistes pour l'avenir.
Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Leïla qui nous appelle depuis Saint-Genis-les-Aulières. C'est à côté de Lyon. Leïla, toi, tu es responsable de vie scolaire. Bonjour Leïla, tu as quel âge?
Alors moi, j'ai 40 ans. Donc ouais, effectivement, je ne suis pas dans les moins de 30 ans.
Ah, t'es pas loin, t'es pas loin.
Non, mais j'imagine que tu ne les fais pas, Leïla, t'inquiète pas.
Ah, ça, c'est clair. Ouais, super sympa, merci.
Alors, Leïla, est-ce que tu t'inquiètes pour.
Je vais taper sur les doigts parce que, en fait, moi, ce n'est pas que je suis pessimiste. En termes de, comment dirais-je, c'est pas que je vois la vie en noir du tout, bien au contraire, c'est simplement que déjà, il faut partir à la base. Moi, je trouve que déjà, le niveau scolaire, déjà, est tellement bas qu'en fait, ils ont même plus de perspective. Enfin, je veux dire, moi, je sais même pas comment les jeunes-là qui font des études peuvent prétendre à avoir un travail de niveau. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus, enfin, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Et moi, quand je vois les écrits du bac, ça me donne simplement envie de saigner du nez. Tellement, c'est une catastrophe. Déjà, on en est là. Déjà, je trouve que le niveau est bas. Donc, plutôt, on fait
les études protègent pas, quoi.
Je trouve que déjà, je trouve que la revalorisation des diplômes, déjà, je pense qu'il faudrait y réfléchir. Déjà, pour commencer. Parce que tous les jeunes brillants, moi, je peux vous dire qu'ils restent pas en France, hein. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Les vrais brillants s'en vont. Ils le savent. Ils sont pas idiots. Ils savent très bien qu'en France, maintenant, ce qu'on leur demande est moins intéressant que ce qui se passe à l'extérieur. Moi, j'ai deux jeunes frères qui partent. Enfin, d'ailleurs, un d'ailleurs qui est en Australie. On est vraiment dans deux mondes complètement différents.
Ouais, mais Leïla, c'est un point qu'on peut mettre à la limite du côté aussi optimiste. C'est-à-dire que, à titre, effectivement, si tu prends la problématique au niveau du pays, c'est préoccupant. Si tu prends la problématique au niveau d'une génération de jeunes, moi, je me rappelle que à mon époque, quand t'avais un copain qui partait faire des études à l'étranger ou qui allait faire des stages à l'étranger, c'était quand même l'exception. Maintenant, ils résonnent tous au niveau au moins européen, voire mondial, et après tout, pour leur avenir personnel à eux, c'est pas plus mal.
Moi, est-ce que. Oui, alors. Oui, mais en même temps, ça voudrait dire quoi? Qu'on laisse notre mémoire vive partir?
Ah, ouais.
Alors après, ils peuvent revenir.
À mon avis.
C'est l'espoir qu'on a, c'est qu'ils reviennent.
J'ai un doute sur le taux élevé des gens qui reviennent. Ça peut arriver. Après, oui, quand ils construisent leur vie familiale, etc., peut-être. Mais moi, je trouve que déjà, il faut vraiment voir à la base. Je pense que. Alors moi, je suis dans le domaine, donc je vois des choses. Je vais même être un petit peu, je pense que je vais me faire taper dessus, mais moi je trouve qu'on est plutôt dans une fabrique de crétins, pratiquement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un, à l'époque, les dictées. Enfin, je veux dire, moi je.
Mais tu sais, on a fait un sujet sur le bac, est-ce qu'il a encore un poids, un importance? On avait beaucoup de profs qui nous ont raconté la même chose que toi.
De la langue française, de l'orthographe, je suis hyper à cheval là-dessus.
Donc toi tu dis on sait moins bien compter, on sait moins bien lire, on sait moins bien écrire.
Et d'ailleurs on voit dans l'étude de l'adresse Leïla que les étudiants ne se sentent absolument pas protégés, ils sont même plus pessimistes que les autres. Reste avec nous Leïla, on est avec Christophe Nick, journaliste, réalisateur de documentaires, auteur de Génération What. Bonjour Christophe Nick, vous avez suivi pas mal de jeunes pour votre travail de documentariste. Est-ce que vous les trouvez vous pessimistes, étudiants ou pas, peu importe le niveau social d'où ils viennent?
Oui, bien sûr, le pessimisme est total. Il est Il est marqué depuis longtemps. Il est plus important en France que dans tous les pays d'Europe, mais c'est toute l'Europe est concernée par ça. Il n'y a rien de spécifique, si ce n'est le degré de colère en France. Il n'y a rien de spécifique au pessimisme. Il est marqué depuis la crise de 2008. On l'avait vraiment bien mesuré à ce moment-là. La jeunesse dans son ensemble ne croit pas à l'avenir de notre société et à son modèle. Elle en est exclue. Par contre, au niveau des études, il faut corriger un petit peu ce qui vient d'être dit, cette génération a en moyenne 4 ans d'études en plus par rapport à la génération des années 70-80. Donc il y a d'autres compétences qui sont acquises que celles qui prévalaient dans les années 70-80.
Mais c'est quoi? C'est le rejet de la société de consommation? C'est quoi la société dans laquelle ils ne trouvent pas leur ancrage?
Non, mais pour eux, il n'y a pas de futur dans ce monde. Voilà, le monde n'est pas adapté aux défis qu'il a à affronter, qu'il soit écologique, qu'il soit en Covid, la preuve a été donnée. Tous les défis sont quasi insurmontables dans le cadre de la société telle qu'il la voit. Donc comme il n'y a pas de société alternative, il se retrouve d'un côté dans un pessimisme absolu pour l'avenir de nos pays. Voilà, c'est pas juste la France. Et vous avez le même phénomène en Allemagne, en Angleterre, partout. Hein. Par contre, ils sont optimistes pour eux-mêmes. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui vient d'être dit, ils se sentent suffisamment forts et armés pour pouvoir affronter le monde. Donc on a quelque chose d'assez complexe, qui est un regard très très négatif sur notre monde et un grand optimisme pour soi-même. Moi, je vais m'en sortir, mais pour les autres, ça va être terrible. Et c'est un jugement général qui est assez étonnant. Voilà. Donc, on a une génération.
Mais Christophe Nick, est-ce qu'il n'y a pas une forme de passivité finalement dans cette attitude vis-à-vis du futur? C'est-à-dire, on a envie de leur dire, mais attendez, le futur, c'est vous qui allez l'écrire. C'est à vous de vous emparer de ce que sera demain. Ne le considérez pas comme quelque chose qu'on va vous léguer et que vous subissez.
Absolument. Mais ils ne voient pas de solution systémique. Donc le phénomène le plus frappant aujourd'hui, c'est plutôt celui qu'on appelle le faire, c'est-à-dire plutôt d'attendre que le monde bouge ou change, eh ben je vais moi-même changer les choses. Donc le phénomène d'aller à l'étranger, de se barrer, d'aller voir autre chose, il est massif, il est mondial, tout le monde va passer, dès qu'on peut, hein, passer une année, deux années, trois années ailleurs pour aller voir comment ça se passe. Et ça, c'est plutôt un signe très positif. Mais il est surtout, vous l'avez dans les chiffres du déclassement, ça, c'était noté dès 2009, vous avez ce chiffre assez dingue qui est que 27% des fils de cadres supérieurs sont aujourd'hui des ouvriers ou des employés et 34% des filles. Donc c'est un phénomène totalement nouveau de déclassement qui est parfaitement mesuré et compris et qui est une rupture absolue depuis le début du 19e siècle. Là, c'est vraiment, on est dans une autre époque.
Christophe,
pas forcément ouais. Un choix par défaut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui, même à bac plus 3 ou bac plus 5, décident de devenir charpentier ou faire de la permaculture ou de transformer le monde par eux-mêmes en allant là où ils peuvent aller.
Christophe Nick, je reviens sur ce que vous avez dit il y a un instant. Vous dites que la rupture, vous l'avez notée après la crise de 2008. Est-ce que ce pessimisme des plus jeunes a un rapport direct avec l'économie de marché, la mondialisation, le fait qu'au fond les pouvoirs démocratiques dans les pays n'ont plus la main sur rien et qu'au fond les grandes entreprises, les multinationales ont bien plus de pouvoir et que ce pouvoir leur échappe? Comment vous expliquez que ce soit à partir de cette crise de 2008?
Ben parce que d'abord, elle les a complètement affectés et justement, contrairement à ce qu'ils disaient, ayant fait plus d'études, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils sont plus armés pour décrypter le monde tel qu'il est. Et donc, ils sont lucides, tout bêtement. Ce monde, l'Europe vit depuis 40 ans dans un chômage de masse et que les premiers sacrifiés sont les jeunes là-dedans. Donc, on avait déjà vu dans les années 90 apparaître les mouvements de génération précaire, génération stagiaire, etc. Ça ne fait que s'accumuler et empirer. Et donc là, la crise de 2008-2009 a été comme un signal absolu. De toute façon, notre monde, enfin, comme ça qu'ils le vivent, la plupart, mais notre monde est en crise permanente parce parce que le monde est inadapté aux défis qu'il a à relever. Et vous le voyez aussi bien au niveau économique, écologique, que social, que culturel même. C'est quelque chose qui tétanise en fait tout le monde. Il n'y a pas que cette génération. Sauf que elle se retrouve confrontée à assumer un avenir qu'elle n'a pas choisi, qu'elle n'a pas voulu, et d'un monde qui correspond pas à ses attentes. Tout bêtement. Et en
mais
plus,
est-ce que c'est pas le fait pas de n'importe quelle génération de jeunes, on n'est jamais dans un monde tel qu'on l'aurait imaginé, il y a des externalités négatives, la guerre, n'importe quoi, enfin c'est pas le fait d'être jeune en soi qui fait qu'on est déçu par le monde qui nous entoure?
Non, vous aviez pas ça dans les années 70, 80, 90 où il y avait quand même globalement un optimisme sur l'avenir qui était on peut le transformer. Voilà, et donc toute génération arrive en idée. Évidemment, vous avez raison. Oui. Toute génération arrive dans l'idée que le monde n'est pas adapté à lui. Bon, mais il offre des opportunités et on va pouvoir le modeler, qu'elles soient encore une fois des opportunités politiques ou individuelles. Là, le constat est que il n'y a pas d'alternative à ce monde et ce monde s'autodétruit. C'est comme ça qu'ils le vivent. Alors, vous pouvez être de gauche et avoir une vision plus écolo ou être de droite, avoir une vision sécuritaire, mais tout le monde a peur du futur. Et là, c'est pas générationnel, c'est pour tout le monde. Donc cette société, et encore une fois, c'est totalement européen. On a fait l'enquête, on l'a faite aussi dans le monde arabe. C'est exactement les mêmes résultats. Il n'y a pas de différence de générationnelle entre l'Europe et le monde arabe. C'est assez différent en Asie, je vous le concède, mais c'est très proche aux États-Unis et au Canada. Donc il y a un sentiment d'un monde fini et qui ne sait pas se renouveler. Et là-dedans, personne ne voit dans les élites quoi que ce soit qui puisse bouger. On sent des courants vers lesquels ils peuvent aller, une conception plus écolo, une conception plus identitaire. On voit bien ces tendances politiques émerger, mais elles ne sont pas incarnées et elles ne correspondent pas à des programmes crédibles. Et donc, c'est désespérant.
Est-ce que du coup, puisque la société est terminée, qu'il n'y a rien à en faire, vous trouvez des jeunes qui n'ont pas du tout envie de faire des enfants?
Oui. Ça aussi, c'est le phénomène. Alors, il faut aussi le mesurer. C'est pas un phénomène massif, mais il y a quand même une tendance, effectivement, à en tout cas, en discuter. Non pas sur le thème, est-ce que je veux ou pas des enfants, mais quel sens ça a d'avoir des enfants aujourd'hui? Et ça, c'est un vrai phénomène.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe Nick, journaliste, réalisateur de documentaires. Vous avez la société de production Yami 2, auteur de Génération Watt. Un grand merci à Leïla qui était avec nous juste auparavant au 32-16. On sera dans un instant avec William. William, il est étudiant en alternance. Il pense que toutes les opportunités sont devant nous. Il est optimiste et il va nous le faire savoir. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann le chiffre.
RMC, midi 14h.
Neumann le chiffre.
Neumann le chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h et on parle des jeunes. Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Est-ce qu'ils ont raison d'être pessimistes pour Neumann le chiffre? Non, ils ont tort. L'avenir est plein d'opportunités. Pour Laurent Neumann, oui, ils ont raison. Les vieux qui gèrent ce pays ne s'occupent pas d'eux. Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann le chiffre.
32-16.
On est avec William qui a 24 ans, qui nous appelle de Sainte en Charente-Maritime. Bonjour William.
Salut William.
Bonjour.
William, toi tu es étudiant en alternance et tu es côté le chiffre. Tu as une petite liste d'opportunités avec toi.
oui. Enfin, sur un plan professionnel, les opportunités, elles sont partout. Encore plus quand on est jeune et comme vous l'avez si bien dit précédemment, on est de plus en plus diplômé ou alors on acquiert des compétences tout au long de nos vies, on est capable de s'adapter. Le mot-clé, ça reste quand même l'adaptabilité. Donc forcément, les opportunités, elles sont partout professionnellement.
Ouais. Et donc toi, quand tu regardes ton avenir, tu te dis, je vais trouver un boulot, ça va bien se passer, je vais m'installer. Enfin, tu y crois?
Ah, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai vraiment aucun problème avec ça.
Dans quel état? Et tes copains, c'est pareil pour tes copains ou pas?
Ben, moi, en fait, dans mon cercle d'amis proches, je suis un des seuls à avoir fait des études. Et comment eux se sont débrouillés sans aucun bagage, y compris qu'un bac, sachant qu'aujourd'hui, on sait que ça vaut pas grand-chose, ils ont quand même réussi à s'adapter, à trouver du travail et à vivre très correctement. Alors certes, oui, le niveau de vie peut baisser, le coût de la vie coûte de plus en plus cher, oui, c'est vrai. Mais il faut vivre dans son monde, il faut vivre avec les acteurs de son monde.
Tu fais une alternance en quoi, William?
Je suis dans la logistique.
Oui.
Mais
c'est
William,
un avenir, Emmanuel, la logistique.
Ah oui, non, je pense que c'est un métier d'avenir, effectivement, mais ça n'empêche que ta trajectoire future, tu la vois rectiligne ou tu te dis je suis prêt à prendre toutes les opportunités, tu n'exclus rien, tu te dis peut-être que dans deux ans j'habiterai à l'étranger ou je sais pas. T'es très ouvert à tout ou t'as vraiment une trajectoire de vie déjà tracée dans ta tête?
Je suis relativement ouvert, mais c'est vrai que j'ai quand même une trajectoire de vie qui est tracée dans ma tête. Je ne vois pas partir à l'étranger tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un qui est très patriote. J'aime beaucoup mon pays et j'ai l'impression que ça se perd un petit peu chez les jeunes. On le voit avec l'engagement politique, les jeunes sont de moins en moins engagés et c'est assez dommage, je trouve.
Ouais, tu peux aller faire un stage à l'étranger et revenir, hein. C'est pas un petit peu obligé de quitter le pays.
William, il a raison sur un point, que par rapport à la remarque de Laurent qui est de dire ah bah ouais, mais le pays est dirigé par des vieux qui n'ont rien fait pour eux. Bah, à ce moment-là, effectivement, il y a un moyen de vouloir de se faire entendre, c'est d'aller voter un peu plus.
C'est marrant parce qu'il y a des chiffres que vous citez jamais. Il y a quand même un jeune sur cinq qui est en situation de pauvreté en France. Mmh. En France, il y a un jeune sur trois quasiment, allez, sur quatre ou sur trois, qui éprouve de réelles difficultés financières à la fin du mois. Je veux dire, rien que ces deux chiffres-là, tu comprends pourquoi l'état d'esprit est pas hyper optimiste. Et quand tu entends en plus les débats politiques sur l'avenir, on te parle de quoi ? On parle de on va tout faire pour sauver le régime de retraite. Désormais, vous allez travailler jusqu'à 64 ans. Il y a des jeunes qui arrivent pas à rentrer sur le marché du travail et ils se disent oh là là, les gens qui dirigent ce pays sont en train de se demander s'il faut pas travailler jusqu'à 64 ans. Moi, j'en ai 25, j'ai pas encore trouvé un job. Tu vois, c'est en termes d'état d'esprit, c'est quand même extrêmement difficile à être optimiste. Alors après, tu peux dire oui, bien sûr, je vais me bouger.
Moi, je crois que ça. On va demander à Lionel qui est aussi avec nous au 32-16. Lionel, tu nous appelles de Montaterre, c'est dans l'Oise. Lionel, t'es étudiant en éco. Toi, quand on dit il va falloir que tu travailles jusqu'à 64 ans, ça te déprime ou pas?
Non, franchement, non. Moi, j'ai mon père, il est maçon dans le bâtiment, donc moi, je sais que ce serait dans un bureau. C'est pas du tout la même chose. Franchement, moi, je trouve l'avenir, il est beau, hein, parce que je suis handicapé.
Ouais.
Et il y a 10 ans, faire des études, pour moi, ça aurait été inutile. C'était pas possible.
Ah ouais.
Alors qu'aujourd'hui, c'est accessible. On a des matériaux adaptés, on a des profs un peu plus, même s'il y en a qui nous font comprendre qu'on n'a pas à être là, mais les profs, ils sont un peu plus à l'écoute et on a un avenir. On a je connais des personnes aveugles qui sont ingénieurs, professeurs, donc c'est un peu plus serein pour moi, je me dis. Pour moi, c'est un peu trop facile de dire l'avenir. En fait, c'est une façon de dire c'était mieux avant le coup de l'avenir, il sera pire. Mais je suis pas d'accord avec ça parce qu'avant c'était quand même pire. Il y avait le droit des femmes qui était encore beaucoup discutable, on peut remonter plus loin à la guerre ou l'hyperinflation, il y avait des... Pour moi, je pense, si on donne les moyens, on peut s'en sortir.
Lionel, c'est...
Une chose, Manu, parce que tu te souviens, il y a pas longtemps, il y avait le bac de philo.
Ouais.
Il y avait un sujet au bac de philo, c'était « L'avenir vous appartient-il »
ouais.
Ou est-ce qu'on peut changer ?
Êtes-vous responsable de l'avenir ?
Êtes-vous responsable de l'avenir ? Ouais. Bon, et là, t'as deux réponses possibles. Ou tu dis, bah oui, l'avenir, il sera ce que je vais en faire. Moi qui ai 25 ans aujourd'hui, l'avenir, c'est-à-dire les 50 prochaines années, ça va ressembler à ma vision des choses et moi, je vais le faire changer. Mais tu peux dire aussi, l'avenir tel qu'il se présente, il a été façonné depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle par des gens qui ne sont pas préoccupés de savoir dans quel état j'allais retrouver ce pays, le monde, la planète, etc. Et franchement, le monde dont ils héritent, il est pas génial. Encore une fois, je te dis le réchauffement climatique, pardon, quand t'es un jeune de 25 ans, tu te dis c'est pas évident.
Ah mais ok, Lionel, on est d'accord que les 50 degrés au Canada et aux États-Unis, ça donne pas franchement envie d'être optimiste. Mais il a raison, Lionel. Le droit des femmes, l'inclusion dans les entreprises,
de progrès, heureusement.
Ah oui, donc.
Mais tu vois, par exemple, Emmanuel, il citait le progrès technologique comme une source d'optimisme pour demain. C'est vrai, ça ouvre.
Par exemple, sur le handicap pour Lionel,
des opportunités formidables. Mais tu peux aussi le voir comme une source de pessimisme. L'individualisation à laquelle conduisent tous ces développements.
Lionel, si c'est pas trop indiscret, c'est ton handicap, c'est quoi? C'est
Je suis aveugle, moi.
D'accord. Et il y a des Lionel, il va nous en parler. Mais les moyens technologiques que tu as pour lire, pour aller sur Internet, raconte-nous un peu.
Bah là, j'ai mon iPad où j'ai la synthèse vocale, où dès que je clique dessus, il me dit ce qu'il y a sur l'écran. J'ai un ordinateur avec une synthèse vocale, une plage braille. J'ai les professeurs qui font des efforts. Quand il y a par exemple des schémas à étudier, ils écrivent un texte avec la description du schéma ou des trucs comme ça. Franchement, c'est faisable. C'est vraiment faisable. Même tout à l'heure, j'ai lu une formation sur Pôle emploi où ça proposait pour des personnes non expérimentées en informatique ou expérimentées une formation de 6 mois pour devenir programmateur informatique et à la clé un travail entre 1700 et 2500 euros. Et juste à côté, ils avaient mis qu'il y avait justement 90 000 offres d'emploi en Île-de-France pour 45 000 personnes qui postulaient. Donc c'est franchement, quand on voit ça, c'est... Il y a moyen, six mois pour avoir un poste comme ça, franchement, je me dis qu'il y a moyen de...
Toi, tu voudrais faire quoi, Lionel, quand tu auras fini tes études ?
Bah, là, je fais un truc en psychologie et je fais en même temps une double licence en économie. Et j'aimerais bien faire un truc en école de commerce.
Eh ben écoute Lionel, c'est tout ce qu'on te souhaite. Lionel, merci
super.
Ton optimisme, merci.
Mais tu vas y arriver Lionel, parce que t'as un moral d'acier.
Il a la niaque surtout.
Super.
Et William. Salut, aussi Lionel. Qui était étudiant en alternance avec nous dans la logistique, qui était au 32-16. On est avec Louis qui nous appelle de Bordeaux, qui est technicien de maintenance. Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Toi, tu as deux enfants, Louis, et t'es un petit peu plus pessimiste.
Tout à fait, parce que c'est vrai que moi, on parle de salaire et tout ça, c'est vrai qu'avec 5000 francs, autrefois, on pouvait vivre à peu près facilement. Maintenant, c'est vrai qu'avec 1000 euros, on va survivre maintenant, si on va par là. J'entendais tout à l'heure, pour le point de vue technologique, c'est vrai qu'il y a eu des bons trucs qui ont été faits pour les gens, pour les étudiants, tout ça, mais le niveau scolaire a énormément baissé, parce que moi, si je vois par rapport à ma grand-mère ou mes parents, le niveau scolaire... Il partait beaucoup plus tôt de l'école, on va dire à 17 ans, 18 ans, il quittait l'école, il trouvait un travail. Mais quand je vois les connaissances qu'ils ont par rapport aux connaissances que j'ai pu avoir, l'instruction que j'ai pu avoir et ce que apprennent mes enfants, il y a trois mondes différents. L'école a énormément régressé. Moi, j'ai passé un bac professionnel. Les professeurs, je vais dire, ils étaient vraiment très nuls. J'ai fait une reconversion à l'AFPA. Ça a été une révélation. Là, j'ai appris 4 fois plus que ce que j'ai pu apprendre à l'école. Il y a un grand écart avec l'éducation nationale. On peut pas dire qu'on sort vraiment avec un diplôme valorisant ou disant qu'on peut avoir un travail derrière. Et j'ai eu des stagiaires, des jeunes bac pro. Je me suis jeté en l'air. Les gens, ils savaient pas dessiner. Les gens ne savaient pas régler. Les gens ne savaient même pas utiliser le matériel minimum pour travailler. Donc c'est difficile pour ces jeunes, pour plus tard, pour se lancer. Ils sont peut-être plein d'avenir, ces jeunes. Mais l'éducation et tout ça, je les plains sur la façon dont ils vont aborder après le travail. Pour ceux qui seront surtout dans la partie technique, ceux qui sont dans les bureaux, c'est peut-être différent.
Louis, moi, je reviens sur ce que disait tout à l'heure notre invité Christophe Nick, qui disait quelque chose qui est, à mon avis, important et qui concerne pas que les jeunes. Les jeunes sont assez optimistes pour eux individuellement, et tous les témoignages, tous ceux qui nous appellent là au 32-16 correspondent à ce profil-là. Ils sont plutôt pessimistes d'une manière générale.
Pour la société, mais pour eux-mêmes, ils sont
plutôt pessimistes. Et les Français, c'est pareil d'ailleurs. Quand tu interroges les Français, leur morale, qu'est-ce qu'ils pensent de demain, à titre individuel, ils te disent, moi, je suis plutôt confiant, pour moi, tout va bien. Mais ce qu'ils voient, ce que le monde donne à voir, les rend pessimistes.
Tout à fait. Et c'est exactement ça. Mes enfants, c'est comme ça que je le vois pour mes enfants. Ils sont plein d'avenir. Je pense qu'ils peuvent avoir plein de choses, mais dans quelles conditions? Voilà, ça sera très, très, très dur. Moi, je sais que je les plains pour plus tard. Comme pour moi, on n'en sait rien, parce qu'à 43 ans, on a fait à peine la moitié du travail, quoi. On n'a rien fait encore.
Bon, t'es jeune, 43, t'es un petit jeune.
Merci beaucoup Louis d'être venu débattre avec nous dans Neumann le Chypre. Quel est le résultat définitif, Lisa Marie?
Vous êtes finalement 85% à trouver que les moins de 30 ans ont raison d'être pessimistes sur l'avenir.
Claque. Hein. Après tous ceux qu'on a eus qui nous ont remonté le moral.
Mais moi,
ils m'ont gonflable.
Parce qu'il y a deux lectures à titre individuel. Ils sont optimistes pour eux-mêmes et ils sont prêts à en découdre.
Mais est-ce qu'il ne t'a pas échappé que les plus pessimistes qui nous ont appelés, c'est plutôt des 35-40 ans, alors que les moins de 30 ans nous ont appelés.
Ça rejoint un petit peu ce que disait
assez optimiste.
On va parler restauration tout de suite.
RMC, Neumann le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie, tu veux nous parler de doggy bag. Qu'est-ce qu'un doggy bag ?
Doggy bag, c'est le terme anglais qui désigne l'emballage dans lequel le client d'un restaurant peut emporter les restes de son repas. Si on traduit de l'anglais doggy dog, ça veut dire chien, et ça veut dire la boîte pour ramener les restes qui serviront à nourrir le chien. Ça, c'était le prétexte au départ. Et pour en finir avec le gaspillage, cette pratique du doggy bag devient obligatoire dans les restaurants en France à partir d'aujourd'hui. Les restaurateurs ont désormais l'obligation de proposer à leurs clients des contenants réutilisables ou recyclables pour qu'ils puissent emporter les restes à la fin du repas. Et ça, c'est aussi valable pour l'alcool. Donc si vous ne terminez pas votre bouteille de vin, vous pourrez la rapporter à la maison avec le reste de la pizza ou avec un dessert à peine entamé quand on a eu les yeux plus gros que le ventre. Parce que oui, ça arrive. Et cette pratique du doggy bag, elle a été inscrite dans la loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le doggy bag, c'est courant depuis très longtemps aux États-Unis ou en Asie, mais ça a mis beaucoup de temps à arriver chez nous. Le monde de la restauration française y était très réticent en raison de son manque d'hygiène supposé. Et du côté des clients, d'après une étude YouGov de 2014, demander les restes de son plat, ça fait radin pour 15% des répondants et c'est même impoli pour 11% des Français sondés. Conséquence, les pertes de nourriture sont 5 fois plus élevées au restaurant qu'à la maison. Donc maintenant, pensez-y si vous allez déjeuner ou dîner ce soir au restaurant et si vous ne finissez pas votre assiette, n'oubliez pas de repartir avec votre doggy bag. Je suis sûre que Laurent, tu l'as déjà fait.
Non,
jamais.
Non, c'est pas
il trouve
vrai.
Que ça fait radin. On a eu cette conversation il y a deux jours.
Ça fait radin.
Jamais.
Tu peux faire gaspiller.
Non. D'abord, c'est pas moi qui gaspille. Moi, je finis mon assiette.
Ah.
Mais admettons que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre.
Ça arrive.
Je n'oserais jamais dire au chef, au serveur, dont vous me mettez ça dans un petit sac, j'emmène le sac. J'oserais pas. Ne serait-ce que le regard des autres, etc. J'oserais pas. Et je l'ai vu faire au restaurant. Et moi-même, je me surprends à regarder les gens.
En disant,
vraiment, franchement.
On est chez Guy Savoie quand même. Franchement, on n'est pas un
Européen. Non, mais c'est gêné que le serveur il reparte avec une assiette. Parce que ça arrive parfois. On prend le dessert, au final, on a plus faim. Et l'assiette, elle repart à moitié pleine. C'est dommage, c'est du gaspillage pour le coup.
Oui, mais il faut pas gaspiller.
Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je n'ai pas souvenir d'avoir laissé quelque chose dans une assiette au restaurant, sans doute parce que je commande de façon assez pertinente. Donc voilà. Par contre, culturellement, je suis totalement comme Laurent, c'est-à-dire jamais je n'oserais demander. Par contre, je trouve que pour le vin, c'est extrêmement intéressant. Et alors, je n'aurais pas de problème pour la bouteille de vin, par exemple. Parce que finalement, quand tu vas aujourd'hui dans un restaurant qu'on te propose du vin.
Là, ça fait paradin. Si tu t'en vas avec la bouteille de vin à moitié vide, ça fait ivrogne.
Non, mais
c'est
autre chose.
Sauf que la
réalité, Laurent, aujourd'hui, c'est que quand tu veux quand une bouteille, ça fait trop, parce que tu dois conduire, parce qu'on n'est pas beaucoup, les choix qu'on te propose au verre sont quand même extrêmement limités. Donc pourquoi ne pas te payer une belle bouteille?
Et puis du coup,
tu en bois deux verres et puis tu conduis tout à fait.
Parce qu'on doit l'acheter pour chez toi, quoi.
Normalement, oui, mais t'as pas le plaisir du repas. Et donc du coup, là, c'est le fait de. Je pense que c'est une bonne affaire parce que du coup, il y a beaucoup plus de gens qui seront incités à prendre des bouteilles entières, quitte à les finir chez eux plutôt que de boire un verre par-ci par-là et que même le restaurateur il gagnera. Et là, psychologiquement, je ne sais pas pourquoi, ça me dérange beaucoup moins de dire tiens,
comme
je porte
le reste de
bouteille.
Comme quoi, tout ça est une question culturelle.
Absolument.
Merci beaucoup, Lisa Marie. On peut retrouver C'est moi à savoir sur nos réseaux sociaux et sur rmc.fr. Dans un instant, sur RMC, vous retrouvez Christophe Cessieux pour parler Tour de France, intégral tour. On se retrouve demain, midi 14h sur RMC, RMC Story. Salut, à demain.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre. RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. À partir d'aujourd'hui, les pères peuvent s'arrêter un mois à la naissance d'un enfant. Alors notre question, est-ce qu'être père en 2021, c'est plus facile qu'avant? C'est jusqu'à 13h.
Oui, et à 13h, on va se pencher sur le sort des jeunes et sur leur état d'esprit surtout. Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Et la question, elle est toute simple, est-ce qu'ils ont raison? raison ces jeunes d'être pessimistes? Tort ou raison? Il y a débat, on vous attend au 32-16.
À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça? C'est notre jeu sur l'actualité à gagner cette semaine. Un séjour dans les résidences Noémie pour 4 personnes. Vous pouvez choisir entre les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Savoie, les Alpes du Nord pour jouer avec nous. Vous envoyez jeu GEU par SMS au 732-16. À partir d'aujourd'hui, on double. Le congé paternité ou second parent passe de 14 à 28 jours, dont une semaine obligatoire. En plus d'être allongé, ce congé est plus souple. Les 25 jours peuvent être fractionnés en 2 périodes. Il faut toutefois que ces jours de congé soient posés dans les 6 premiers mois qui suivent la naissance. La France rattrape ainsi son retard. On était un peu en avance au moment où on a lancé le congé paternité en 2002, mais on s'est retardé, on a été rattrapé par d'autres pays comme le Portugal qui offre 5 semaines. Mais c'est quand même mieux que l'Allemagne. En Allemagne, ça n'existe pas du tout. Niveau rémunération, les 3 jours du congé de naissance restent à la charge de l'employeur. Les jours restants sont indemnisés par la Sécurité sociale, toujours avec ce fameux plafond des 89 euros par jour. C'est à votre entreprise de dire si elle compense à 100%. Et c'est bien tout le problème. La théorie, c'est bien, mais dans la pratique, il faut que les pères prennent leurs jours. Nadège Dazi, membre de l'association Parents et Féministes, était ce matin sur RMC.
Actuellement, il n'y a que 70% des pères qui le prennent, donc on peut se poser... Bah,
que 70, on pourrait se dire c'est pas mal déjà, non?
On pourrait se dire c'est pas mal, mais c'est un délai quand même très 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 raccourci actuellement, donc avec un délai plus grand, on peut se poser la question de savoir qui va le prendre et de voir est-ce que ça ne va pas finalement aussi creuser des inégalités par rapport à la prise de ce congé.
Alors on avance sur les acquis sociaux, le rôle du père évolue. Notre question, est-ce que c'est plus facile d'être père en 2021 qu'avant? Laurent, tu dis oui.
Ah bah si j'en crois à l'existence de ce congé paternité, oui, c'est plus facile. Moi je suis devenu papa au début des années 90, j'aurais adoré avoir un mois de congé dont 7 jours obligatoires. Alors maintenant, et on l'a dit, on en a déjà débattu avec Emmanuel, on trouve, Emmanuel et moi, pour une fois on est d'accord, on trouve que ce congé paternité, il ne va pas assez loin. Pas seulement sur la durée, le problème, c'est pas les 28 jours. Après tout, 28 jours, c'est déjà pas mal. Alors, bien sûr, en Espagne, c'est 16 semaines en Espagne. Vous vous rendez compte? Tu as cité le Portugal, je crois, 5 semaines. Bon, chez nous, c'est 4 semaines. C'est pas mal déjà, 4 semaines. C'est un progrès. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 7 jours obligatoires. Il faudrait que ces 28 jours soient obligatoire, qu'il n'y ait pas de débat. L'intervenante qu'on entendait il y a un instant disait qu'il y avait 7 papas sur 10 qui font valoir leur congé de paternité, mais on ne dit pas tout. Il y en a moins d'un sur deux qui sont en CDD qui font valoir leur congé paternité. Donc on voit bien que c'est compliqué.
Mais est-ce que c'est plus facile?
Mais moi je dis oui, avoir un congé paternité aujourd'hui, c'est un progrès absolument considérable. Et je te le dis, la maman de mes enfants et moi, on travaillait 12 heures par jour. 2 enfants en bas âge, c'était l'enfer absolu. On se répartissait les tâches. Alors moi, j'étais déjà dans l'égalité, la répartition des tâches peut-être avant l'heure, mais sans répartition des tâches à l'époque, il y avait pas de vie de famille possible. Donc c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la répartition des tâches, on a fait des progrès. Ce congé paternité, c'est un progrès. Donc j'aurais tendance à dire oui que c'est un peu plus facile aujourd'hui qu'il y a 30 ans.
Emmanuel, être père aujourd'hui, c'est pas simple.
Moi, je pense que c'est peut-être plus simple sur le plan logistique, mais c'est plus compliqué, je trouve, sur le plan psychologique et sur le plan de la pression, il y a pression sociale. Parce que finalement, il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait aucune pression sur les pères, il n'y avait aucune pression de l'entreprise, il n'y avait aucune pression de la mère, l'épouse,
quoi.
Qui était, qui pensait que c'était son rôle de s'occuper des enfants, pendant que le père, effectivement, allait travailler, et personne ne demandait au père de s'occuper des enfants. Donc, il y avait quand même une forme de confort, quoi. Alors que ce qu'on demande au père aujourd'hui a radicalement changé. Ce congé paternité de 28 jours, là, c'est une vraie torture psychologique, parce qu'il est trop court. Il est trop court pour décrocher de l'entreprise. Il y a plein de patrons qui font tout pour que vous ne décrochiez pas vraiment du boulot. Donc, vous êtes entre les deux. Vous allez vous absenter peut-être 28 jours, mais c'est court, donc vous ne décrochez pas vraiment. Et encore une fois, les patrons vous mettent la pression. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à suivre le boulot ou pas en même temps? 28 jours, on voit bien que c'est pas assez en même temps pour faire tout ce qu'il faudrait. Je vous renvoie au rapport qui avait été rendu sur les premiers jours de l'enfant par Boris Cyrulnik. Skolnik notamment.
Il demandait 9 semaines. Hein.
Il demandait 9 semaines, lui, effectivement. Et puis, moi, je pense aussi que la pression de la société et de la famille est plus grande aussi sur le père. Légitimement, les femmes qui sont quand même deux fois plus nombreuses à travailler aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, bah oui, elles veulent une répartition des tâches. Donc ça, il faut s'en accommoder. Il y a aussi la pression sociale, le regard des autres. Donc je pense que psychologiquement, c'est plus dur.
J'avais pas totalement compris tous les enjeux du débat, mais je suis en train de les découvrir. Ah. En fait, toi, t'es en train de dire, cette pression sociale, tu la déplores en réalité.
Non, je la déplore pas.
Bah si,
non,
elle est là. J'ai l'impression que tu la déplores.
Pas du tout.
Non,
pardon,
je la constate.
Ça aussi, c'est un progrès.
Non, mais quand tu
vois qu'il y a 20% des femmes qui font une dépression postpartum, notamment parce qu'elles ont l'impression d'être totalement lâchées et par leur employeur, Laurent, et par leur mec après la naissance.
Dis, c'est bien pour ça que je te dis que la situation des pères était bien plus confortable avant, puisqu'à aucun moment on ne leur reprochait de laisser à leur femme supporter toute la charge mentale de l'accouchement.
D'accord, mais
etc.
Aujourd'hui on va pas pleurer sur le sort des pères parce qu'on leur en demande un peu plus.
N'empêche qu'aujourd'hui la situation est plus compliquée pour eux parce qu'on leur en demande plus, justement, et t'as beau avoir un congé de 28 jours.
Je te rassure, on leur en demande toujours moins que les femmes, hein.
Non mais d'accord Laurent, bon, mais voilà. Que les femmes en demandent plus
sur
à leur mari,
de quelqu'un,
mais je ne pleure pas sur
leur
des sort, je te dis que c'est plus compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a plus d'exigences vis-à-vis des pères, ce qu'on peut considérer être un progrès, puisqu'il y a une forme de partage, effectivement, de toute la révolution que constitue l'arrivée d'un enfant dans une famille entre l'homme et la femme, et je trouve ça très bien, mais je te dis que du coup, pour les pères, c'est moins confortable qu'avant. T'en penses quoi, toi, alors?
Ah, moi, je pense que c'est très dur pour les pères aujourd'hui, effectivement, qu'on scrute en permanence pour voir s'ils ont bien fait attention à la division des tâches. On compte le nombre de fois où ils ont été à l'école, on compte le nombre de fois où ils ont été faire des courses, et ils n'ont aucun modèle. Leur père ne faisait absolument pas la même chose, voire leur père les critique en disant « Attends, tu changes des couches, tu fais les courses, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ?» Donc non, je pense que c'est très compliqué pour les pères aujourd'hui de trouver leur place. Et je pense même que c'est difficile pour l'homme, en général, de trouver sa place aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, féministe comme il est en train de
pauvre chouchou.
Ben oui, mais moi je suis du côté des pères qui veulent faire des efforts.
Non, mais c'est quand même
là on vient d'assister, excuse-moi, un numéro de démagogie.
Mais c'est pas vrai.
Alors là, on vient d'atteindre un plafond.
Non,
parce que vous êtes tranquille à penser que les femmes, on veut vous massacrer, vous mettre sur le côté. Tu dis sans arrêt que t'es l'ennemi, l'homme de 50 ans qu'on veut massacrer. Là, je te dis non, moi je suis à côté des pères et des hommes qui veulent faire des efforts. Je vois pas en quoi c'est démagogique de dire ça.
Ouais, ben excuse-moi, moi les efforts dont tu parles, je les faisais déjà il y a 30 ans, donc je suis pas concerné.
Ce qui est quand même fabuleux, c'est que la réalité, c'est qu'il faut bien dire à nos auditeurs et téléspectateurs qu'on passe la journée, enfin la matinée quand on prépare l'émission, à se faire engueuler.
C'est vrai.
Parce qu'on est des ringards, des machins, des trucs, etc.
Mais je suis pas de votre côté à vous, je suis du côté des jeunes pères.
Ah voilà.
C'est pas les mêmes.
Voilà. Et que là, à l'antenne, d'un coup, on est du côté des pères.
Je suis à côté des pères qui veulent faire des efforts.
Elle a avoué qu'elle préférait les jeunes aux vieux.
Nous, on était déjà très, très en avance sur notre temps avec Laurent.
C'est vrai. Mais c'est vrai parce que vous étiez déjà dans le partage.
Il y a 30 ans, on était très moderne.
Ouais. Là, du coup, oui. Alors, vous êtes exactement comme le congé paternité, vous vous êtes fait rattraper.
Mais comme on n'a pas évolué en 30
voilà,
ans.
Du coup, vous êtes fait rattraper par la modernité.
Coup,
Lisa Marie, bonjour, on peut voter
terrible.
Sur les réseaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous rappelle notre question. Être père en 2021, est-ce que c'est plus facile qu'avant? Vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC depuis votre téléphone.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Domenico, bonjour, qui nous appelle de Pémenade dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Domenico.
Et bonjour les amis, j'espère
que vous allez bien. Attends, juste une chose, quel temps il fait là en ce moment à Pémenade?
Écoute, un super soleil, un beau ciel bleu et une chaleur de fou.
Jaloux.
J'ai un petit bémol, tu vois, toi qui viens à Montauroux, on a eu un départ de feu hier à Seyan.
Ah mince.
Puisqu'on a eu du vent, on a pas mal de vent, donc voilà, précaution à tous les petits touristes qui arrivent.
Ah ouais, attention avec les cigarettes, les feux, les barbecues, il faut faire gaffe. Hein.
Toi, t'as deux enfants, Domenico, de 9 et 13 ans. Si tu avais pu prendre ce congé, tu l'aurais pris avec plaisir?
Avec grand plaisir. Alors, la question du jour, c'est est-ce qu'il est plus facile d'être père aujourd'hui en 2021? Moi, je te dis non. Non, clairement. Alors, c'est bien, hein, le fait de prolonger le congé paternité, c'est franchement, c'est top, hein, c'est génial pour les papas qui veulent s'impliquer. Mais il faudrait aller plus loin, en fait. Moi, je vois, je vais vous donner ma petite expérience perso. Je suis séparé de la maman de mes enfants depuis 5 ans. Et j'ai bataillé 5 ans pour qu'un juge acte une garde alternée. Parce que je voulais m'appliquer au niveau de mes enfants. Donc, on va me donner 28 jours de congé paternité. Et derrière, il va falloir que je me batte pendant des années pour pouvoir continuer à m'impliquer. Donc, le truc, en fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, être père en 2021, ça se résume pas à des vacances. Ça se résume directement au fait qu'on nous laisse exercer notre rôle de père. et c'est très 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 compliqué.
Tu l'as eu ta garde alternée, Domenico, ou pas?
Oui, au bout de 5 ans.
Je l'ai eu parce que je me suis battu pendant 5 ans. Je l'ai eu tout de suite. Hein. Mais la maman a fait plusieurs procédures et je l'ai eu au bout de 5 ans. Enfin, ça a été acté au bout de 5 ans. Mais je me suis battu pendant 5 piges.
Donc, ça veut dire que dans l'égalité, on ne va pas jusqu'au bout, en fait.
Non, on ne va pas jusqu'au bout. Mais malheureusement, c'est qu'on n'ira jamais jusqu'au bout. Parce qu'il y a plein de lobbies, parce qu'il y a plein de lobbies féministes aujourd'hui qui nous expliquent que le rôle du papa, ben, c'est pas super important. Et à un moment donné, je pense qu'il faudrait...
Tu entends beaucoup de lobbies féministes dire que le rôle du papa n'est pas important? Franchement, tu entends ça? Parce que...
Clairement, encore il n'y a pas longtemps, avec l'adoption sur la PMA, aujourd'hui, le rôle du père, on le relègue
à... Ça n'a rien à voir.
En fait, aujourd'hui, on est en train de nous expliquer qu'on peut se passer d'une société sans papa. Et c'est pas en mettant 28 jours de congé, paternité, qu'on va donner l'opportunité au père de s'impliquer plus. Moi, c'est ça, moi, qui me gêne, en fait, aujourd'hui. C'est que c'est très bien le fait d'avoir ce progrès et de monter à 28 jours de congé. Mais pour autant, il faut laisser le papa pouvoir s'impliquer quand il a envie de s'impliquer.
Cela dit, Domenico, il met quand même le doigt sur quelque chose auquel j'avais pas pensé. C'est vrai qu'on dit au papa, vous prenez un congé paternité, vous devez vous impliquer dans l'éducation de vos enfants. Mais au moment d'un divorce, d'une séparation et de la répartition des enfants, le père continue à être largement minoré dans la répartition des jours de garde, des jours de visite, de l'implication de l'autorité parentale. C'est vrai.
L'implication d'un papa, c'est pas 28 jours à la naissance.
Mais t'as raison. C'est très juste.
C'est toute la vie de l'enfant. Et malheureusement, c'est que aujourd'hui, notre société, et je parle pas de gouvernement parce que c'est comme ça depuis longtemps, mais notre société aujourd'hui ne donne pas la possibilité au papa de s'impliquer. À moins que, ben voilà, il fasse comme j'ai fait, c'est-à-dire qu'il se batte devant les tribunaux. Ils subissent des enquêtes.
Mais parce que tu ouvres la voie, en fait, Domenico, tu ouvres la voie pour les autres, parce que effectivement la société réagissait de manière mécanique. Les enfants vont avec la mère, de toute façon, les pères, ça les intéresse moins. Et toi, tu ouvres la voie à une nouvelle génération de pères qui veulent avoir leurs enfants.
Voilà, et Domenico, c'est un papa qui a envie de s'impliquer, il faut dire la vérité.
Et Domenico ouvre la voie.
Il y a beaucoup de pères qui ne veulent pas s'impliquer.
De plus en plus.
Quand ils sont mariés. Et après, au moment de la séparation, qui sont contents de ne pas s'en occuper. Hein.
De plus en plus, c'est pour ça que le sujet est quand même assez générationnel. Un grand merci Domenico d'être venu débattre avec nous dans Neumann Le Chip. Dans un instant, on sera avec Stéphane depuis Marseille, qui va nous dire ce qu'il pense du congé paternité. Et on sera avec Benoît Le Goédec, sage-femme, il est... un sage homme, en fait. C'est un homme qui est sage-femme. Il n'y a pas un terme précis. On va lui demander de poser la question. Auteur du kit du papa débutant, on vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
Midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. À partir d'aujourd'hui, les pères peuvent s'arrêter un mois à la naissance de l'enfant, d'un enfant, être père en 2021. Est-ce que c'est plus facile qu'avant? C'est notre question. Pour Laurent Neumann, c'est oui. Vous pouvez vous arrêter de travailler. C'est déjà un luxe par rapport aux générations d'avant. Pour Emmanuel Le Chiffre, non. Aujourd'hui, c'est plus dur. La société en demande beaucoup aux pères. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Être père en 2021, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile? Vous êtes partagé, puisqu'on est sur un 50-50 pour le moment. 50% disent oui, 50% disent non.
Et dans un instant, on sera avec Benoît Le Goédec, qui est sage-femme, mailloticien, c'est le terme quand on est un sage-femme homme. Mais avant, on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chiffre.
32-16.
Et on est avec Stéphane qui nous appelle depuis Marseille, qui est postier. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, je ne serais ni d'accord avec Emmanuel, ni d'accord avec Laurent. Je serais plutôt d'accord avec toi, Laurent.
Ça y est.
Alors, vas-y.
Voilà le problème.
Je t'écoute, bienvenue.
En fait, je pense que le congé, c'est un progrès, un mois. Mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Il faudrait pouvoir avoir le droit de faire moitié-moitié.
C'est mon grand combat, pouvoir faire en sorte qu'on puisse partager le temps et s'organiser comme on veut. C'est-à-dire pouvoir faire en sorte que le père puisse s'arrêter quand la mère retourne au travail.
C'est ça. Parce que moi, je sais que ma femme a gagné plus que moi. Quel serait l'intérêt qu'elle s'arrête plus que ce que je m'arrête? On va perdre un pouvoir d'achat.
Attends, Stéphane, juste pour qu'on comprenne bien, dans ce congé paternité, c'est comme ça qu'on l'appelle, il y a 7 jours obligatoires que tu dois prendre à la naissance de l'enfant. Mm-hmm. Mais les 3 autres semaines, tu peux les prendre quand tu veux dans les 6 mois qui suivent. Et notamment, tu peux les prendre d'affilée, 3 semaines d'affilée, au moment où la maman retourne travailler. Tu peux le faire. Oui, ça, pardon, c'est un sacré progrès.
Ah oui, mais c'est un petit peu court.
Pour moi,
mais...
c'est pas assez.
Oui, j'entends, bien
mais
sûr.
Mais c'est déjà pas, enfin, c'est déjà pas mal. Hein. On est quand même sur une belle avancée sociale. Hein.
On est tous d'accord. Oui. C'est un progrès. C'est 28 jours, c'est pas assez long. Ça devrait être obligatoire. Et je rajoute un quatrième point. C'est payé par la sécurité sociale à partir du troisième jour. Donc pendant 25 jours, c'est la Sécu qui paye et pas l'employeur. Et c'est payé dans un plafond.
89 euros.
Ça va de 9,66
euros. Stéphane, il dit, financièrement, c'est compliqué.
89 euros par jour. Donc on est à peu près à 1800 euros par mois. Donc j'imagine le cadre qui gagne entre 3000 et 4000 euros par mois, bah sur un mois il perd 1000 ou 2000 euros. Bah donc
s'il n'est pas compensé par son entreprise à 100%, mais c'est important parce que ça fait des grosses inégalités entre les salariés.
Donc on appelle ça un congé, mais en réalité c'est pas vraiment un congé. Un congé, quand on a des congés dans une entreprise, bah les congés sont payés dans ce pays. Voilà, là c'est pas des congés payés, c'est des congés payés à moitié.
Stéphane, reste avec nous, on est avec Benoît Le Goédec, sage-femme et auteur du kit du papa débutant, c'est aux éditions First. Bonjour Benoît Le Goédec.
Bonjour.
Vous vous occupez plutôt des mamans, mais j'imagine que vous voyez de plus en plus de pères investis au moment de la naissance et après.
Ben, je m'occupe aussi des pères, parce que ça fait 20 ans que j'anime des petits hommes pendant la grossesse. J'en vois autant investi, mais différemment, plus dans la démonstration et le désir de l'être et capacité à l'affirmer.
On va essayer de vous rappeler, Benoît Le Goédec, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que vous nous dites. On va vous reprendre dans un instant. En attendant, on va prendre Aurélie qui nous appelle depuis Orsay. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Toi Aurélie, tu travailles dans l'administration. Tu es plutôt Neumann, Le Chypre, moi-même. Tu peux choisir.
Disons que je suis un petit peu mitigée dans le sens où effectivement c'est une très bonne avancée.
Oui.
Mais par contre, je pense qu'il y a il faudrait que ce soit un droit et non une obligation, puisqu'on a beaucoup de papas. Quand on fait partie, soit qu'on est indépendant ou qu'on fait partie d'une petite entreprise, ou prendre un mois de congé, ça devient très compliqué. Par exemple, mon compagnon est dans une société où ils sont trois, le patron qui fait les contrats, la secrétaire qui est à mi-temps, et mon compagnon, s'il ne travaille pas, au final, les chantiers ne se réalisent pas, donc ils ne peuvent pas facturer. Donc, un mois sans entrée d'argent, la société, c'est la fin de la société. Sachant que là, on vient en plus d'avoir une situation un peu complexe avec perte du chiffre d'affaires, etc. Pour certaines sociétés, il faudrait vraiment que ce soit adaptable. Ou justement, quand on est dans une grosse société, un salarié qui n'est pas là pendant un mois, voilà.
Oui, mais ça s'anticipe, Aurélie. Personne n'est irremplaçable. Tu ne crois pas que la société de ton mari, elle le sait avant que tu vas accoucher. C'est relativement prévisible. On ne peut pas penser en amont, même six mois avant, qu'il va y avoir un sujet de remplacement.
Disons que tout dépend de la profession. Dans certains, il faut une certaine expertise, etc. Faudrait former quelqu'un, sauf que certaines sociétés ne peuvent pas prendre une personne en supplément pour la former parce que ce sont aussi des cotisations supplémentaires, etc. Donc, je pense que selon la société, il faudrait que ce soit peut-être adaptable de dire on peut le fractionner, on peut...
Tu ne crois pas que gérer l'absence des mères et des pères au moment de la naissance, c'est quand même la clé de l'égalité et de l'ensemble du bien-être, c'est-à-dire considérer que oui, c'est une charge, une formation, mais que peut-être que celui que vous allez former aujourd'hui pour remplacer ton mari, dans six mois, vous allez peut-être l'embaucher parce que l'activité va être augmentée.
Alors après, je pense que tout dépend de la société. Je pense que voilà, c'est en fonction de la société. On sait que non, prendre une personne en plus, ça va être trop compliqué. Donc voilà. Après, je pense que moi, il a de la chance dans le sens où il peut adapter ses chantiers. Donc en général, vers 12h-13h, il est rentré. Donc et c'est à ce moment-là où il prend sa place de papa. C'est un peu comme une maman quand la maman travaille, quand elle rentre du travail, elle va faire les tâches, elle va s'occuper de bébé, le papa c'est pareil, il travaille, il rentre, il fait les tâches ménagères, parce que les tâches ménagères se font à deux, et il s'occupe de bébé, il lui donne le biberon, il lui donne le bain, il lui donne la couche, voilà.
Ce que décrit Aurélie, c'est exactement, c'était le mode de vie que moi j'ai vécu il y a 30 ans. Voilà, on adaptait nos horaires. Quand t'as un papa et une maman qui travaillent 10 ou 12 heures dans la journée, bon, il y a la crèche, il y a les nounous, etc. Mais tout le monde sait que ça ne suffit pas. Et donc, on adaptait les horaires, voilà. Et le partage des tâches.
Et qu'est-ce qui s'appelle adapter les horaires? Parce qu'à un moment
quand
donné.
Tu bosses 12 heures par jour, je sais pas ce que t'appelles adapter les horaires.
Je vais te donner un exemple très très simple. Moi, je partais travailler très tôt. Et je m'occupais d'aller récupérer mes enfants soit à la crèche, soit chez la nounou. Et je retravaillais le soir si besoin est. avant, quand la maman était rentrée. On organisait notre temps de travail. Et puis parfois, il y avait des jours où c'était le contraire parce qu'elle devait partir tôt. Donc je partais plus tard. Enfin,
non, mais Aurélie, le vrai sujet, effectivement, ce sera un progrès considérable, c'est effectivement de tout faire pour faciliter l'absence. Et à ce moment-là, il y a une mesure qui serait intéressante, ce serait de garantir une espèce de coût zéro du remplacement. Si on avait des dispositifs qui garantissent à l'entreprise que le remplacement d'un salarié qui prend son congé paternité, ce sera zéro, je pense que là,
c'est quand même exceptionnel. On est capable, dans une période de crise comme celle qu'on vient de vivre,
de
mettre en place le chômage partiel, où tout est pris en charge par l'État.
Absolument.
Et pour relancer la politique de natalité dans ce pays, pour aider les jeunes couples à s'en sortir avec les petits...
Mais le chômage partiel, c'est pareil, c'est pas pris en charge à 100%. C'est exactement le même principe.
Il y a une sacrée différence.
T'as une perte de salaire et soit ton entreprise compense, soit ton entreprise compense pas. Inégalité totale entre les salariés.
Excuse-moi, je pense que pour beaucoup de gens, d'ailleurs dans les 3 papas sur 10 qui ne prennent pas leur congé, il y a une proportion très importante de cadres qui ne le prennent pas pour des raisons salariales.
On n'a pas fait mieux avec le chômage partiel, on a fait exactement la même chose.
On n'a que 15% de perte. Pour certains, là, on est à plus de 50% de perte de salaire. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même proportion.
On a retrouvé Benoît Le Goédec, sage-femme et auteur du kit du papa débutant. On disait, Benoît, juste avant d'être coupé, que vous, ça fait des années que vous voyez des pères de plus en plus impliqués.
Oui, je sais pas s'ils sont plus impliqués. Je pense que c'est différent, c'est-à-dire qu'on leur donne plus d'espace pour pouvoir manifester leur implication. Mais je les ai toujours vus là, moi. Sauf que maintenant, on s'intéresse un peu plus à eux.
On les foutait dehors des maternités avant. Hein.
Oui, ça fait quand même très longtemps, ça. Moi, j'ai 30 ans d'exercice, je les ai toujours vus accueillis dans les maternités.
En tout cas, ça fait pas très longtemps que dans certaines maternités, on peut dormir à côté de la mère.
Ah, mais ça, c'est... dans les suites de couches, c'est encore pas acquis, effectivement. Mais dans les salles de naissance, ça fait quand même un moment. Après, je sais pas, mais moi, j'ai entendu tous les débats, là. Je pense qu'il y a... Je voudrais quand même revenir sur 2 points. Le congé paternité, effectivement, c'est une avancée sociale parce qu'il n'était pas important, mais c'est très loin de ce qu'avait préconisé la commission des 1000 jours, aussi bien pour la relation précoce, le bien-être de l'enfant que l'égalité femmes-hommes. Donc c'est dommage, parce qu'il va falloir peut-être encore des années pour changer les choses. Sur les salaires, qu'il y a une différence de salaire, mais d'indemnité, mais pour la femme c'est pareil. La femme, elle n'est pas indemnisée à 100% de son salaire si les employeurs ne compensent pas, donc sont à égalité de ce point de vue-là. Sauf que, évidemment, dans notre société où les salaires des hommes sont plus importants que les salaires des femmes, ça fait une différence. Et c'est bien aussi pourquoi il aurait fallu le rendre obligatoire plus long, parce que c'est aussi un levier, peut-être, pour ne pas que ce soit les femmes qui s'arrêtent, parce que les hommes gagnent plus. Ensuite, sur tout le reste, le remplacement, évidemment, mais une femme, c'est pareil, sauf qu'une femme, ça semble normal, mais qui pâtit dans la carrière parce que, justement, elle s'arrête longtemps et parce qu'elle n'est pas forcément remplacée, c'est elle, dans le stress que ça lui met de revenir au travail, et ou alors, on ne lui donnera pas les postes à responsabilité. Donc, je pense qu'il y a quand même un raisonnement encore très machiste et paternaliste dans ce que j'entends, qui est assez surprenant.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre kit du papa débutant? Quel est le premier conseil?
Les premiers conseils dans le kit du papa débutant, à propos de quoi?
À propos d'être un papa débutant. Comment on se débrouille quand on est un papa débutant?
De prendre le temps de s'attarder à l'autre et de l'observer en s'arrêtant de faire toute autre chose dans les premiers temps de la vie.
D'où l'intérêt de ce congé paternité.
D'où l'intérêt de ce congé paternité, mais une semaine obligatoire, c'est absolument pas suffisant. Une semaine obligatoire, ça permet l'égalité pour tous les hommes, quel que soit le poste qu'ils ont, y compris en CDD. Mais c'est pas suffisant pour prendre soin, c'est pas suffisant pour découvrir soi et l'autre. C'est juste le lendemain, le début de l'euphorie, ça aide au retour à la maison. Mais c'est plus tard. L'épisode dépressif des hommes, il y a une méta-analyse qui montre qu'il y a 25% d'épisodes dépressifs chez les hommes. C'est tardif, c'est après les lendemains de fête, c'est justement quand ils reprennent le travail et qu'ils découvrent tout d'un coup la responsabilité qu'ils ont et qui est totale de s'occuper d'un enfant. Et quand ils rentrent, ah ben merde, il est toujours là, dis donc. Et là, ils le réalisent. C'est le premier, les hommes, c'est 70% les premiers criminels dans le syndrome du bébé secoué, quand ils vont mal. Et c'est quand, justement, à distance, 40% des violences conjugales démarrent en périnatal. Donc en fait, donner du temps aux hommes, c'est important, mais il en aurait fallu plus long, obligatoire. Et puis s'occuper des hommes pour les accompagner, et notamment après la naissance, ça l'est tout autant, parce que ben parce qu'on a tous ces soucis-là. Moi, je vois les hommes qui changent, que je vois moi, j'ai une clientèle où il y a beaucoup de cadres. Ils ont en fin de compte cette souffrance de la dialectique. Quand je voudrais être à la maison avec mon enfant, et en même temps j'ai tout le travail, et si je le quitte, ça va prendre du retard, la société va moins bien marcher. Mais ils sont définis que par ce temps-là. Ils passent de 9h à 19h au travail, les gens que je vois. Et leur première démarche avant même tout congé, c'est de se dire que je vais peut-être m'aménager autrement, je vais peut-être arrêter les réunions tardives, je vais peut-être me dire que ma responsabilité est ailleurs.
On voit des entreprises quand même se responsabiliser elles-mêmes, hein, et donner un peu plus de temps à leurs salariés. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, c'est le cas de Kering par exemple, qui va beaucoup plus loin que la loi en accordant par exemple 14 semaines de congé, que ça soit homme ou femme. Un grand merci Benoît Le Goédec d'avoir été avec nous sur RMC. Un grand merci à Aurélie également qui était au 32-16. On vous attend pour parler paternité, maternité, congé parental, être père en 2021. Est-ce que c'est plus facile qu'avant? C'est notre question. On sera dans un instant avec Philippe qui a 3 enfants. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, on est ensemble jusqu'à 14h. À partir d'aujourd'hui, les pères peuvent s'arrêter un mois à la naissance d'un enfant. Allongement du congé paternité. Alors, être père en 2021, est-ce que c'est plus facile qu'avant? Pour Laurent, c'est oui. Pour Emmanuel, c'est non. Et on va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chiffre.
32-16.
Et on est avec Philippe qui nous appelle depuis Chambéry. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Toi, tu as 3 enfants, Philippe, tu es artisan dans la rénovation d'intérieur. Est-ce que tu aurais aimé pouvoir prendre ce congé paternité un petit peu plus long?
Alors oui, mais c'est un peu compliqué parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et je trouve que, comme je disais, je crois que c'était la jeune dame, il y a plusieurs cas de figure, on ne peut pas faire du cas par cas, mais justement il y a beaucoup de patrons qui sont à leur compte et justement nous, je pense qu'on ne peut pas spécialement faire ce genre de procédé. Si on s'arrête 3 semaines, il n'y a plus rien qui rentre. Et puis, je vous entendais dire aussi, Laure, alors par contre, Laure, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est rare qu'une femme tienne ce genre de discours, mais par contre, il n'y a pas de mode d'emploi pour l'homme, pas plus qu'il y a de mode d'emploi pour une femme.
Ben, c'est ça qui est dur. Hein.
Oui, mais justement, je pense que c'est humain et qu'on doit le faire. Et puis, quand je vous entends aussi parler d'argent, toujours d'argent, de baisse de salaire, n'oublions pas qu'on parle d'un enfant.
Mais oui, quand me dis tu peux pas t'arrêter en tant que patron, on parle d'argent.
Oui, mais bon, justement, comme Laurent dit, c'est pour ça que tout le sujet est complexe, mais comme Laurent dit, je vois pas comment ils se sont aménagés leur temps avec son épouse à leur époque, parce que je connais leur génération et tous ceux de leur génération, en tout cas, je connais aucun des hommes qui s'est occupé de leurs enfants. Mais parce qu'à un moment donné, c'est soit on travaille, soit on s'occupe des enfants, c'est ça. Il y a les crèches, c'est bien pratique, mais c'est pareil. Il faut être présent pour s'occuper de son enfant. Donc, comme disait Laurent, c'est sûr, je le rejoins. Il y a des aménagements à faire, il y a des emplois du temps à changer, etc., etc. Mais en l'occurrence, moi, en étant artisan, justement, toute ma famille était artisan. Moi, je suis le seul à finir à 5h30 le soir parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants, parce que ma femme a un métier où elle finit pas à 5h30. Et à 5h30, ben à la crèche, je connais pas un artisan qui arrête à 5h30. Donc de toute façon, c'est pas des temps d'aménagement, c'est pas des temps de ceci, c'est un choix de vie et c'est pas le congé parental qui changera grand chose, c'est plutôt
il faut accepter que ça soit un choix. En fait, enfin, il faut le prendre comme une donnée et dire voilà, ma vie, elle est organisée comme ça. Enfin, c'est.
Oui, je suis pas sûr que 3 semaines, 4 semaines, ça changera grand chose, quoi. Tous les cas, c'est quand on fait un enfant, on part pas sur 3 ou 4 semaines, on part sur.
Alors, juste une chose, Philippe. Philippe, juste une chose, parce que moi je ne le savais pas avant de me plonger dans le texte, mais le congé paternité, il n'est pas fait que pour les salariés. Hein. Les indépendants, les artisans, tout le monde y a droit. Hein. Tout le monde y a droit. Maintenant, en fonction de ton mode de vie, en fonction du travail que tu exerces, tu peux ou tu ne peux pas. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour un artisan, par exemple, que pour un salarié d'une entreprise.
Et toutes les professions libérales, il y a des vraies inégalités. Mais là aussi, du travail qu'on fait.
On peut bénéficier du congé paternité même quand on est profession libérale.
On est avec Jérôme, qui nous appelle de Boulia, qui est directeur d'une agence de service public. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Toi, tu as deux jumeaux, ils ont quel âge ?
Ils ont 19 mois.
19 mois, ah oui. T'es bien dans le dur là, Jérôme. À 19 mois, toi, vous êtes deux papas, c'est ça ?
Ouais,
avec des jumeaux.
Ouais.
Toi, tu as pu t'arrêter ? L'un de vous deux a pu s'arrêter ou pas ?
Alors non, nous, c'est un choix différent. D'abord parce que le congé pater qui vient d'être allongé, il est allongé à partir du 1er juillet. Donc à partir d'aujourd'hui, nous, notre expérience, elle date d'avant par définition. Donc nous, j'ai pris des congés, j'ai cumulé des congés, je me suis organisé pour pouvoir avoir du temps. Et puis après, on fait comme tous les parents du monde, que ce soit une maman, un papa ou des papas, puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui, on s'organise. Voilà, je crois que Philippe, avant, il venait de dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Mais la raison, il n'y a pas de mode d'emploi, il y a les règles qu'on se donne et les moyens dont on dispose. Hein, faut être clair là-dessus. Moi, j'ai la chance d'être salarié, donc j'ai pas la contrainte de diriger une entreprise qui me soit propre, avec tout ce qui a été dit par d'autres auditeurs.
Mais Jérôme, comment vous avez choisi de répartir un peu le temps ? C'est-à-dire que c'est en fonction de vos contraintes professionnelles ?
Ouais, il y a beaucoup de ça en fait. C'est vrai que c'est un petit peu autour de ça qui s'articule les choses. On va être sincère. Moi, c'est plus simple pour moi de récupérer les enfants en fin de journée. Pour mon ami, pour mon compagnon, c'est plus simple de les amener le matin. Donc, voilà. on fait ça. Et puis après, comment on se répartit les couches, comment on se répartit le bain, comment on se répartit les courses, on se les répartit pas, on fait. Voilà. Quand le premier qui peut le fait, quand on se dit tiens samedi, moi j'y vais, ok t'y vas. Tiens, pense à prendre des couches, il en manque. Très bien, voilà. Et puis un dimanche sur deux, c'est l'un des deux qui fait le bain ou deux dimanches d'affilée. L'important, c'est qu'il y en ait toujours un ou deux qui soit présent avec les enfants et qui assume tout simplement sa paternité.
Et vous arrivez à être là systématiquement, chacun votre tour ?
Ouais, parce qu'en fait, c'est quoi la différence en fait entre un couple, on va dire, plus classique ?
Ah non, mais je parle de couple, peu importe garçon ou fille, le problème c'est qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là et parfois, les deux sont pris.
Alors, ça peut arriver naturellement, mais dès lors qu'on peut s'organiser, il y a toujours un aidant familial, quoi. Il peut y avoir les grands-parents, il peut y avoir une tati, il y a toujours quelqu'un. Et puis sinon, on a aussi un petit réseau qui peut nous aider à garder les enfants dans notre cercle de proches, quoi.
Jérôme, avant que cette nouvelle loi rentre en vigueur là sur le congé paternité, il y avait quand même 11 jours de congé avant. Est-ce que vous en avez bénéficié tous les deux avec ton conjoint ou pas du tout ?
Non, enfin moi non.
Pas du tout.
Non, alors mon conjoint oui, parce qu'il est le père biologique des enfants, donc lui il pouvait justifier d'une paternité qui moi était plus difficile à justifier au regard de la législation française. Donc moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pris des congés sur mon capital congé comme tout salarié.
D'accord.
Merci beaucoup Jérôme d'être venu nous parler de ton expérience avec nous dans Neumann Le Chypre. On va apprendre Aymeric qui nous appelle. Aymeric, depuis, je ne sais pas d'où tu appelles Aymeric, mais je sais que tu es là. Salut Aymeric.
Bonjour, ouais, j'appelle de Pépin dans les Bouches-du-Rhône.
Bienvenue à toi. Toi, tu vas avoir ton premier enfant en août.
Exactement, j'attends une
petite fille. Bon timing Aymeric.
Voilà. En fait, j'avais le choix entre l'euro et les 28 jours. L'euro, ça me paraissait un peu tôt, et puis vu la
France,
du coup, j'ai opté pour les 28 jours, du coup.
C'est très, très bien. Non, mais du coup, tu es content?
Oui, je suis très content. Après, c'est hyper complexe, parce que moi, je suis cadre et je suis directeur régional, donc c'est un métier très prenant. Mais j'ai senti, en fait, sans vouloir me vanter, je fais partie un peu des papas 2.0 qui aident beaucoup à la maison et qui se répartissent les tâches. Et donc, du coup, j'ai senti quand même du côté de madame qu'il y avait vraiment ce besoin d'être dispo. Donc en fait, par rapport à l'activité, ce qui est très bien dans ces 28 jours, c'est qu'en fait, on peut fractionner la période, ce qui
en
va permettre de faire 15 premiers jours avec elle vraiment pour le démarrage. Et puis fin septembre, une fois que l'activité de la rentrée scolaire par rapport à mon activité va baisser, je vais pouvoir revenir auprès d'elle pour lui apporter un deuxième soutien, en tout cas sur le démarrage. Quoi.
Mais donc, Aymeric, c'est quoi retour au travail à elle, c'est
Pardon
ça? Au moment de son retour au travail à elle, c'est
non,
ça
non, non, non,
non,
non, non, non, très rapidement. C'est-à-dire que là, on est imprévu pour début août. Donc, je serai avec elle sur les 15 premiers jours d'août.
la rentrée scolaire, moi, je dois être présent d'un point de vue professionnel. Et donc, mi-fin septembre, une fois que la grosse activité sera passée, fin septembre, je veux être de nouveau dispo pour l'aider et l'accompagner dans la naissance de notre fille.
Oui, mais dans ton entreprise, Aymeric, c'est quoi l'accueil qui t'est réservé par rapport à cette décision de prendre ton congé? On te dit oui, mais à condition que tu restes en contact. Est-ce que tu sens une forme de pression? Non, ou bien est-ce que tu es totalement libre de faire ce que tu veux?
Je suis totalement libre de faire ce que je veux parce qu'en plus, je travaille dans une entreprise qui fait du prêt-à-porter pour enfants et de la puériculture. Donc, je suis en plein dans le milieu. Donc, pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au contraire, ça serait dommage que ce soit pas le cas.
Tu vas pouvoir tester les produits comme ça.
Exactement.
Tu vas avoir des super cadeaux de naissance, surtout.
Ah, bah, du coup, tout a déjà été fait, liste de naissance. Et puis, du coup, on est des experts en produits. Donc là, on a tout ce qu'il faut. J'ai pu aider madame sur cette partie-là, d'ailleurs.
Mais, Aymeric, on se demandait si c'est plus facile ou plus difficile aujourd'hui d'être père qu'avant. Toi, c'est quoi ton sentiment?
Moi, je pense que c'est quand même pas plus facile parce que, du coup, il y a quand même une répartition des tâches qui s'est faite naturellement. Et donc, on a une activité à la maison qui est quand même sûrement plus importante si je compare avec notamment juste mes parents. Donc, en fait, il y a toute une organisation. Moi, c'est ça mon appréhension. Hein. Demain, c'est d'avoir cette petite fille et de réussir à caler un petit peu toute cette organisation et personnelle et professionnelle. Chose que je n'avais pas à faire avant parce que j'étais hyper autonome d'un point de vue professionnel. Et là, du coup, ben, les priorités vont sûrement changer et il va falloir trouver le juste milieu entre rester efficace d'un point de vue professionnel et montrer que, ben, à la maison, on est bien présent et qu'on est dispo pour la maman et pour la petite fille qui va arriver.
Eh ben, tu seras épuisé, comme tout le monde. Ça sera hyper fatigant. Mais si tu fais le bain à 38 au lieu de 37, c'est pas grave.
Oui.
Ça fait pas cuire les bébés.
De toute façon, du jour au lendemain, il va oublier ce qu'était sa vie d'avant.
Oui, c'est vrai.
C'est grâce à cet instinct de survie que tu survis, d'ailleurs.
Que tu survis, c'est que tu oublies. C'est-à-dire que tu peux avoir passé une journée très compliquée, mais tout d'un coup, il s'endort et il est merveilleux.
Exactement. Je dis aux gens qui s'inquiètent, mais comment je vais faire après? Eh ben, ne vous inquiétez pas puisque vous aurez oublié votre vie d'avant.
Elle va rester
la vie où vous sortiez, où vous étiez libre, où vous étiez autonome, mobile, faire ce que vous voulez à tout moment de la journée. Enfin, voilà, quoi.
Bon, tu serais prêt à être papa à nouveau, là?
Maintenant, tout de suite.
Puisque tu dis que finalement, ça change rien.
J'ai dit que c'était plus facile aujourd'hui, oui.
Est-ce que tu serais prêt, vas-y, à remettre le couvert?
Et la réponse est non.
La réponse est non.
J'ai des amis de mon âge qui sont papas. Et je les regarde comme si c'était les nouveaux aventuriers du 21e siècle. Je me dis, mais comment ils font?
Un petit clin d'œil à Olivier Truchot, sur les grandes gueules.
Non, mais c'est vrai, c'est super compliqué. Tout ça, quand t'as une trentaine d'années, ça va, t'es en pleine forme. Mais quand t'en as 20 ou 25 de plus, t'as pas tout à fait les mêmes aptitudes physiques, la même résistance à la
maladie.
Le plus énervant, Laurent, c'est quand tu te trimbales avec ton enfant et qu'on te prend pour le grand-père.
C'est vrai.
Ah, voilà. D'accord.
C'est parfait. Merci beaucoup, Aymeric, d'être venu débattre avec nous dans Neumann Le Chip. Quel est le résultat définitif, Lisa Marie?
Pour 60% d'entre vous, être père en 2021, c'est bien plus facile qu'avant. Vous êtes donc d'accord avec Laurent Neumann?
Ah, c'est tous ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être, qui ont voté pour toi.
Je
trouve que c'est dur.
Tu sais mieux que moi.
Ou qui en ont eu il y a longtemps.
Moi, je trouve que c'est pas facile. Allez, on va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann Le Chip.
Le C'est quoi ça?
Et on joue aujourd'hui avec Cédric et Jonathan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Cédric, tu es paysagiste, tu nous appelles de Nord-sur-Erdre, c'est dans la Loire-Atlantique. Tu veux jouer avec Laurent ou avec Emmanuel?
Plutôt avec Laurent, s'il vous plaît.
C'est lui qui a la meilleure cote, si je puis me permettre.
Salut. C'est vrai que ces derniers temps, il est bon.
Jonathan, tu es agent commercial dans une agence de voyage.
Salut,
tu
Jonathan.
Tu as Nogent-l'Artaud dans l'Aisne et donc tu hérites donc d'Emmanuel. On joue pour gagner une semaine de vacances dans les appartements de Noémie pour 4 personnes pendant une semaine. Une semaine de vacances, c'est pendant une semaine. On joue ensemble, c'est parti. Cédric et Jonathan, vous buzzez avec votre prénom avant de donner votre réponse. Ils seront gagnants à partir du... Ils seront payants à partir du 7 juillet. Cédric?
Les tests PCR pour les étrangers.
Absolument, ça commence très fort.
Cédric, t'as lu toute la presse, t'as travaillé visiblement.
J'ai entendu ça.
Ça commence fort. Question entre Laurent et Emmanuel. Quel laboratoire allemand a dévoilé hier les résultats d'une étude qui montre son vaccin contre le Covid est efficace?
BioNTech.
Non.
Non.
Bah.
Le laboratoire allemand. Oui, je
Bah, c'est BioNTech.
Et le nom du vaccin?
C'est Janssen.
Non.
Bah, le nom du vaccin.
Le nom du vaccin, tu vas pas l'avoir, c'est CureVac. Mais je suis incapable de te dire
BioNTech
qui fait
alors.
CureVac. Donc,
non,
c'est raté. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est zéro. Zéro.
C'est faux.
Ne prends pas ce petit air étonné, c'est faux.
Mais question. Il me nargue, j'aime pas cet air narquois.
Cédric et Jonathan.
Non, je note que tu as.
Attention, c'est une question très difficile. Il est allongé à 25 jours à partir d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Jonathan.
Le congé paternité.
Oui, c'est
Cédric sur le fil.
Question, on est à un partout. Question entre Laurent et Emmanuel. Quel député européen a annoncé hier qu'il se présenterait
Laurent,
à
la... déjà...
Laurent.
Yannick Jadot.
Absolument, à la primaire de son parti Europe Écologie Les Verts. Question entre Cédric et Jonathan. Quelle partie du monde est frappée par une canicule?
Jonathan. Le Canada.
Alors, t'as les autres parties du monde?
Cédric.
Non, attends, juste Jonathan.
Vancouver, le Canada.
Non, mais c'est le Canada.
Canada et un peu les États-Unis, je te l'accorde. Non. Je te l'accorde. Ça va, toi, tu doucement. De partout. Question entre Laurent et Emmanuel. Qui est Cataluna Enriquez?
Si je le
Manu,
sais.
Manu, vas-y. La nouvelle Miss Univers.
Non, mais non.
Non, alors, il y a de la Miss Univers dedans, mais c'est pas ça.
Ah, c'est la première transgenre. Elle est choisie.
Laurent.
Pour être, non, c'est moi. Laurent. Attends, t'exagères.
Non, t'es dur. Vas-y, je te laisse encore 3 secondes pour essayer.
Non, mais c'est la première, transgenre à être candidate à une élection genre Miss America ou Miss États-Unis ou Miss.
Je la prends. Ah, c'est gentil.
Merci pour ta compassion.
Miss America, c'est bravo.
Miss America, voilà.
Deux questions entre Cédric et Jonathan. Ça sera la dernière question. Elle aurait fêté ses 60 ans aujourd'hui. Elle était surnommée la princesse des cœurs. C'est la mère des princes.
Oui,
Cédric.
Oui.
Diana.
Mais oui.
Aïe, aïe, aïe.
Sur le fil.
Nous sommes donc à 3-3.
Je croyais que t'avais gagné, Cédric. Oh, mon petit
vous
Cédric. Je croyais que t'avais gagné. Il y a égalité. Oui.
Il a deux questions entre Cédric et Jonathan.
Oui, j'ai encore Cédric.
Oui, bah oui, c'est eux qui vont se départager.
Allez, Cédric.
Il a demandé à discuter avec Didier Deschamps.
Cédric. Jonathan.
Cédric.
Cédric, c'est le président de la Fédération française de football.
Oui, il le regrette, je n'ai même pas été au bout de la question. Mais c'est bravo Cédric, c'est toi qui gagne
le fil.
Tu gagnes ta semaine de vacances.
Désolé Jonathan, j'ai fait le maxi.
Dans les appartements. Noémie, bravo à toi Cédric. Merci à tous les deux d'avoir joué avec nous. Restez avec nous dans un instant sur RMC, sur RMC Story. On va parler, il y a un billboard, attendez.
Neumann Le Chypre sur RMC avec les résidences Noémis. Dans les Pyrénées, Alpes du Sud, Savoie ou Alpes du Nord, profitez de séjours au meilleur prix, tout confort, pour des escapades zen ou des parenthèses énergiques.
Voilà, c'était important qu'on entende ça. Dans un instant, restez avec nous. Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Est-ce que c'est... Tout le monde rit. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'ils ont raison d'être pessimistes ou pas ces jeunes? C'est notre question. Jusqu'à 14h, on vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.